qui allait déterminer ce soir la thématique de ce café philo. Un petit rappel avant de débuter, vous savez que le mardi 26 mars, donc très bientôt, Philomania organise une conférence autour du sport, voilà, Jeux Olympiques oblige, qui s'intitule « Le sport idéal ou imposture », conférence donc qui sera prononcée par Michel Caillat. Voilà. Donc n'hésitez pas, ça sera ici, hein, à la maison des associations donc du lycée Jean Zay, enfin non, à la maison des lycéens du lycée Jean Zay. Donc je le rappelle, le mardi 26 mars, donc à 19h, de 19h à 20h30, comme les cafés philo. Autre point quant à la manière par laquelle nous procédons, il est vrai que sur la circulation des micros, ceux qui font passer les micros favorisent toujours ceux qui lèvent la main pour la première fois, histoire que tout le monde puisse participer au mieux. Donc voilà, si vous avez à dire des choses, n'hésitez pas. Voilà. Donc je vous propose de commencer. Est-ce que vous avez des sujets, des thématiques, des questions à proposer? Oui.
Le premier sujet, c'est la guerre peut-elle être juste? Être humain ou ne pas être?
Donc deux sujets. Le premier, voilà. Donc la guerre peut-elle être juste?
Être humain ou ne pas être?
Être humain ou ne pas être?
Et l'humanité serait-elle en plein déclin?
Et troisième sujet, d'accord, l'humanité serait-elle en plein déclin? D'accord, merci beaucoup.
Moi, je vais remettre en jeu un sujet que j'ai déjà proposé. L'esprit des Lumières est-il voué à disparaître?
D'accord. Donc, quatrième sujet. L'esprit des Lumières est-il voué à disparaître?
Alors, est-ce qu'on s'est trompé de chemin? Je pense, donc je suis, versus je ressens, donc j'existe. Ressentir au sens de intuition. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas le fruit de nos pensées déformées et formatées. Voilà.
Alors, comment formuler ça?
C'est-à-dire, je pense donc je suis. Je parle de la pensée psychologique, oui. Je ne parle pas de celle qui a créé la pensée scientifique ou la pensée qui a créé des choses précises, que ce soit en théorie ou quoi. Donc la pensée psychologique, je pense donc je suis. Versus je ressens donc j'existe. C'est-à-dire que là, on ne pense pas. On est dans l'intuition, on est dans autre chose. Mais c'est quelque chose qui peut être beaucoup plus pertinent, du coup.
Je pense, je suis, ou je ressens, j'existe. D'accord? Oui. Donc, je pense, je suis, ou je ressens, j'existe. Voilà. S'est-on trompé de chemin? Oui.
Bon, alors, pardon. Ouais. Un peu de gaieté. Faut-il avoir peur de la mort?
Donc, faut-il avoir peur de la mort?
La vengeance.
Ok. La vengeance est un
entre institutions ou entre États.
D'accord, la vengeance. Oui. La vengeance.
C'est le deuxième sujet que je n'ai pas compris. J'ai les autres, ça va, je les ai tous.
Être humain ou n'être pas. C'était ça.
Non.
Ou ne pas être.
Être ou ne pas être.
Non, être humain. Humain. Ou ne pas être.
Rapport entre la philosophie et la science.
D'accord. Le rapport entre la philosophie et la science. Ça nous fait quand même un bon nombre de sujets, ça.
4, 5, 6, 7, 8.
8. C'est pas mal. Donc voilà, on va passer au vote. Alors,
Voilà, Marie-France.
Alors, est-ce que je redis tous les sujets une première fois avant de
passer
au vote ?
Voilà.
Donc, le choix, c'est la guerre peut-elle être juste ? Être humain ou ne pas être ? L'humanité serait-elle en plein déclin ? L'esprit des Lumières est-il voué à disparaître ? Je pense, je suis, ou je ressens, j'existe. Faut-il avoir peur de la mort ? La vengeance et le rapport entre la philosophie et la science.
D'accord. Alors le premier ?
Donc le premier, la guerre peut-elle être juste ?
Voilà. La guerre peut-elle être juste ? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
Être humain ou ne pas être ?
Être humain ou ne pas être ? 1, 2, 3, 4, 5. 5.
L'humanité serait-elle en plein déclin ?
L'humanité serait-elle en plein déclin ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
L'esprit des Lumières est-il voué à disparaître ?
L'esprit des Lumières est-il voué à disparaître ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Je pense, je suis ou je ressens, j'existe.
S'est-on trompé de chemin ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Faut-il avoir peur de la mort ?
Faut-il avoir peur de la mort ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
La vengeance.
La vengeance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Et le rapport entre la philosophie et la science.
Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
Ben, je crois qu'il n'a pas besoin d'un deuxième tour. La guerre peut-elle être juste ? Caracole en tête.
D'accord. Alors, la guerre peut-elle être juste ? Est-ce que vous pouvez débuter un tant soit peu à ce café philo en nous expliquant la raison de cette proposition de sujet ? On va vous passer le micro. Voilà.
C'est-à-dire que, à l'heure actuelle, nous sommes entourés de guerres, il y a une menace nucléaire, donc voilà, on n'est pas à l'abri nous-mêmes. Et puis, à travers toutes les époques, à travers le monde, il y a eu des guerres qui se sont succédées, beaucoup de morts toujours, beaucoup de gens grièvement blessés, beaucoup de gens traumatisés à vie, beaucoup de gens qui se sont retrouvés handicapés aussi à vie, etc. Tout ça pour le, si je puis me permettre, pour le bien de la patrie. Il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent pas faire la guerre et ils sont kidnappés dans la rue pour qu'ils soient enrôlés, etc., etc. Et en fait, pour moi, et l'amour dans tout ça.
Et l'amour dans tout ça. Oui. Mmh.
Pardon. Oui, on reprend de la guerre peut-elle être juste, donc c'est le mot juste. Peut-être faire une distinction entre est-ce que la guerre peut être juste ou est-ce que les raisons de la guerre peuvent être justes. parce que la guerre en soi, je pense qu'on est tous d'accord pour que c'est, dire que ce soit c'est catastrophique et que ça, effectivement, ça laisse des traces, l'amour, etc., des personnes. Mais est-ce que, à un moment donné, il y a des causes qui méritent des guerres ? Après, comment se déclinent les guerres, c'est un autre sujet. La chair à canon, qui fait la guerre, qui est vraiment victime. Mais est-ce que, justement, quand vous disiez que depuis la nuit des temps, il y a des guerres, est-ce qu'on peut poser la question à l'envers, si certaines guerres n'avaient pas eu lieu, où en serait-on aujourd'hui ? Sur la liberté, la science même, enfin, toutes sortes de choses.
Mm-hmm. Ouais.
Est-ce qu'il ne faut pas se demander d'où vient l'origine du conflit ? Parce que le conflit, c'est dans le cœur de l'homme qui se trouve. Ça génère des guerres en aval, mais en amont, c'est toujours des querelles et des histoires de, bah, d'autres petits moi. Hein. Donc le conflit, d'où il vient ? Je pense qu'il vient de la psyché humaine, hein, et après ça donne des guerres. Non ? Je sais pas.
Je me demande si... en voulant éradiquer quelqu'un qui veut vous éradiquer, c'est peut-être une guerre juste.
Mm-hmm. Il me semble que la guerre en elle-même est un crime. Donc parler de justice pour un crime me paraît éminemment contradictoire. Mm-hmm.
Donc la justice serait justement ce qui devrait venir arrêter la guerre. Voilà. Donc toute guerre serait par définition fondamentalement injuste. C'est vrai que du coup, ça nous amène à nous interroger sur ce qu'on entend par justice. Ouais.
Ouais. Il me semble que, en fait, c'est une solution exercée pour régler des conflits. Et comment se fait-il que des rapports, des situations conflictuelles ne peuvent se traduire que par des rapports de force qui déterminent agression et violence ? Mm-hmm. Moi, le problème, il est là. C'est qu'en fait, il me semble que la question humaine serait comment régler les conflits en dehors de rapports de violence.
Et donc de violence physique.
Physique.
Ouais. Parce qu'à la limite, le conflit.
Le conflit existe.
Voilà.
On ne peut pas demander à ce que tout le monde soit tout le temps d'accord sur tout. Donc, nous sommes inévitablement confrontés à des conflits. La question, me semble-t-il, est comment résoudre des conflits en dehors d'un rapport de violence. Et donc d'agression.
J'ai l'impression que même si on pouvait imaginer parler d'une guerre juste, on oublie que ça se termine par un vainqueur, un vaincu, et que ça laisse des traces par-delà les siècles de rancœur, de violence qui ressurgissent plusieurs centaines d'années après. Comment est-ce qu'on peut dépasser ça ?
Oui, pour la guerre, tout de même, hein, nous trouverons toujours des raisons qui semblent justes pour faire la guerre. Mais de toute manière, c'est évident qu'il n'y a aucune justification à la guerre. Mais l'homme étant l'homme, il trouvera toujours une raison pour lui juste de faire une guerre. Et que ce soit la patrie, que ce soit défendre sa terre, etc., il y aura toujours une raison. Et puis tout est en fait un certain concept, parce que si tuer quelqu'un, c'est abominable, c'est même répréhensible dans la vie civile, mais à partir du moment où vous êtes en temps de guerre, là, vous tuez un nombre incalculable de personnes, vous devenez un héros, quoi. Donc c'est tout est dans un espèce de concept de voilà de civilisation qui et c'est l'homme qui a fait que la par moment sublime un peu la une chose qui est effroyable qui est la guerre.
Oui, ce qui est clair, c'est que la guerre peut-elle être juste ? Plus on réfléchit à la question, plus on s'aperçoit qu'elle est profondément contradictoire, en fait. Ouais.
Je voulais juste rebondir sur un monsieur qui dit que c'est un problème de... Enfin, c'est la guerre, mais en évidence, après des héros. Et en fait... J'aurais envie de dire que héros, ça rime avec ego. Et pour ce qu'on voit actuellement sur l'Europe de l'Est, est-ce que c'est pas l'ego d'un seul homme qui est à l'origine de tout ça, en fait, qui se veut comme le président
du... Il faut juste parler en tenant le micro devant sa bouche, sinon ça marche pas.
Il veut renouer avec une situation ancestrale. Même Napoléon, enfin, on peut aussi imaginer quelqu'un qui se prenait pour un super-homme et un super-héros et qui avait un ego surdimensionné. Et c'est un peu ce qu'on vit sur l'Europe de l'Est actuellement.
Oui, c'est sûr, on a affaire à des dirigeants, à l'esprit national et à des guerres de conquête.
Oui.
Ouais. Alors, ce qui est vrai que dans la guerre, du coup, il va y avoir un vainqueur et un vaincu, mais au départ, on peut aussi dire qu'il y a celui qui attaque, l'attaquant et l'attaqué. Et du coup, c'est pas la même chose d'envahir et d'être envahi. À partir de là, est-ce qu'on ne peut pas effectivement penser qu'il y a une raison juste au moins de se défendre ? Si l'attaque ne se justifie pas, est-ce que la défense, elle, est-ce qu'elle ne trouverait pas sa raison d'être ? Et justement dans une idée de justice. Oui.
Oui. Du coup, dans le même ordre d'idée, moi, je m'interrogeais sur les révoltes, ou par exemple la Révolution française. Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait une raison juste à se soulever, en fait ? Et moi, j'aurais tendance, un peu comme disait un des messieurs tout à l'heure, que, en fait, à partir du moment où on part en guerre, c'est qu'il y a eu un échec il y a du conflit, mais qu'il y a eu un échec soit dans la discussion, la négociation, la communication entre deux parties... On n'est pas d'accord, mais on n'arrive pas à trouver un moyen de s'entendre où on reste dans une logique dominant-dominée et que soit qu'il y en a qui, pour être reconnus en tant que vivants ou quoi, finissent par se révolter ou que certains décident d'avoir plus de pouvoir et d'envahir d'autres. Mais pour moi, il y a toujours un échec de l'humain là-dedans quand on arrive à un conflit armé.
La violence, en fait, est le signe de l'échec du dialogue, du discours, de la mise en commun. Ouais. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a trois termes qui sont en train d'apparaître. Il y a le conflit, il y a la guerre et il y a la révolte. Les trois ne sont peut-être pas synonymes. Voilà. Le conflit, je pense qu'on peut le penser sur un mode inter-individuel. Les individus peuvent entrer en conflit, voilà, et ça peut dégénérer en violence. Hein. Je peux me mettre à développer une certaine dose d'agressivité envers celui avec qui je discute. Mais la guerre, elle semblerait plutôt s'installer dans des rapports étatiques. Hein. La guerre, elle se fait entre États. La révolution, c'est intéressant, parce qu'on pourrait dire la révolte ou la révolution, elle se fait à l'intérieur même d'un État. Donc, dans un cas, on aurait affaire à des rapports entre individus. Dans d'autres cas, on aurait affaire à des rapports entre nations. Et dans le troisième cas, on aurait affaire à des rapports au sein d'un même peuple. Donc, est-ce que les trois sont comparables ? Oui, mais j'ai envie de dire pour un rapport de pouvoir dans la logique de la révolution. C'est en ça où je dis il y a quelque chose de l'ordre de la scission, de la division qui se fait et qui met en opposition à l'intérieur d'un même État, en fait, deux groupes d'individus qu'on peut appeler dominants, dominés, voilà. Alors que le conflit, il peut être entre deux personnes autour d'une table lors d'un dîner un soir ou à l'Assemblée. Oui.
Alors, moi, je voulais prononcer le mot de besoin de domination.
Oui.
Parce qu'il me semble que c'est que pas mal de conflits de guerre ont démarré. Parce que
des
prétextes ont été fabriqués.
Parfois.
Mais il y a toujours à la base le besoin de domination d'un groupe ou d'un chef d'État. Mmh. Oui.
Je ne sais pas si on peut faire le parallèle systématiquement entre révolution ou révolte et guerre, parce que j'ai la sensation que quand il y a une révolte ou une révolution, les personnes qui mènent cette révolution étaient opprimées. Mmh. Et dans le cas de la guerre, c'est plutôt le contraire. C'est quelqu'un qui se sent fort, qui veut être encore plus fort, avoir une volonté de pouvoir, etc. Donc pour en revenir à l'idée de justice, peut-être que quand même la révolution... Alors, il y a toujours des morts, il y a toujours des dommages, c'est effectivement à éviter si possible. Dans l'humanité, a priori, a essayé d'éviter un certain nombre de guerres, et ça fonctionne, et puis là, ça ne fonctionne plus. Mais par rapport à l'idée de justice, je pense que la révolution, elle peut paraître plus légitime que l'agression, proprement dite. Même si au bout du compte... il y a des morts, il y a des vies humaines abîmées et des deux côtés, dans les deux camps.
Mmh. Oui, oui.
Alors moi, je me demande surtout si la guerre est juste, mais pour qui ? Parce que celui qui fait la guerre à l'autre, toujours des bonnes raisons de la faire. Et celui qui subit la guerre, qui se bat pour s'en sortir, a aussi des bonnes raisons pour... Voilà. Il se fait que celui qui gagne, le gagnant, souvent, ben, impose sa loi. Et puis on se dit finalement, c'est lui qui avait raison. Donc, comme Napoléon a réussi à imposer des idées en Europe, comme Alexandre le Grand, comme tous les grands guerriers, ils ont fini un jour par gagner et puis imposer leurs idées. Finalement, c'était juste. Au départ, ben, pour les agresser, c'était pas juste du tout. Maintenant, c'est que je me demandais, la guerre est juste? Mais pour qui ? Mmh. Voilà, c'est la question.
Et d'où vient l'idée de justice, du coup ? Et d'où vient l'idée de justice ?
Oui, je voudrais reprendre le mot juste. Parce que, est-ce que c'est une affaire de justice ? Je veux dire qu'une guerre, c'est un rapport de force. C'est un dominant-dominé et la résolution peut être le résultat du rapport de force. La justice peut apparaître après, mais qui peut rendre justice et, enfin, je vois pas. Par contre, juste, ça peut être la justesse aussi. C'est-à-dire, est-ce que c'est une réponse adéquate à une situation donnée ? Et là, il me semble qu'on peut répondre plus précisément... En analysant la situation et ce qui se passe. Par contre, la justice, qui peut rendre justice après une guerre ? Nuremberg ? Enfin bon, mais ce n'est pas la guerre qu'on a jugée. On a jugé des crimes de guerre.
Voilà.
Mais ouais. On ne juge pas la guerre.
Bon, j'en ai pour 2 minutes. Allez. Il me semble que la question. Indépendamment de tout ce que nous disons là, est beaucoup plus anthropologique. C'est-à-dire que, vu d'assez haut, et par pas mal d'auteurs et de philosophes, l'homme est un loup pour l'homme. Et là, ça fait que tout conflit, quel qu'il soit, est mauvais, méchant, hein, agressif. Et l'homme, il est agressif, intrinsèquement.
D'où est-ce qu'on peut éviter la guerre ?
Voilà. Il faut changer l'homme.
Je ne suis pas trop d'accord avec vous parce qu'en fait, tous ces hommes qui partent faire la guerre, que ce soit durant la Première Guerre mondiale comme la Deuxième, je veux dire, ils tuent des gens qu'ils ne connaissent pas et qui ne leur ont rien fait de mal. Et je ne sais pas si quelqu'un dans la salle pourrait en parler. En fait, je crois que c'est... durant la Deuxième Guerre mondiale où il y avait eu une trêve à un moment donné pour Noël. Et voilà, donc en fait
c'est sur la Première Guerre mondiale lors des tranchées.
Oui.
Ça dévoile bien effectivement ce que je veux dire, être habité par une haine farouche et se lancer sur l'ennemi, mais un ennemi. Et en fait, moi, je serais tentée de dire que partir à la guerre, c'est se soumettre à l'autorité totale du chef d'État. Voilà, et puis je veux dire, c'est tous ces gens qui partent, ils sont habités par la bonté, par la, voilà, par quelque chose qui. Enfin, ce sont des gens qui ont du cœur. Et quand ils sont sur les champs de guerre, en fait, ils n'ont plus de cœur. Mais ils ne sont pas agressifs, ces gens-là, à la base. Ils le deviennent, oui, effectivement.
Mm-hmm. Alors c'est vrai que c'est une chose de penser au soldat qui part à la guerre et qui n'a pas nécessairement le désir d'y aller. C'en est une autre de se poser la question, pourquoi les humains se font-ils la guerre ? Et c'est vrai que là, le retour à une nature humaine fondamentalement hostile, violente, agressive, comme pouvait le dire Hobbes, se pose. C'est-à-dire, pour comprendre cette horreur, cette aberration et cette barbarie que les humains sont capables de produire envers leur propre espèce, comment pouvoir trouver un sens à cette horreur si ce n'est par une nature humaine qui elle-même serait totalement irrationnelle, pulsionnelle et fondamentalement agressive et violente. Animal. Alors animal, le homme se dirait attention, parce que c'est peut-être encore autre chose, parce que les animaux, des fois, ne sont pas dans ce côté extrême, d'une extrême violence, d'une extrême barbarie. Il y aurait quelque chose d'encore plus, j'ai envie de dire, violent et agressif chez l'humain, voilà, qui serait sans raison. D'où, du coup, est-ce qu'il ne peut pas y avoir une raison de s'opposer à ce qui, tout d'un coup, se déchaîne contre soi, voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas une légitime défense, en fait, voilà. Légitime défense des individus, légitime défense des peuples.
Oui, moi je pense aux guerres d'indépendance pour se libérer du colonialisme. Alors je ne dirais pas qu'elles étaient justes, mais je pense que la cause était légitime et que malheureusement, dans des circonstances comme celle-là, contrairement à ce qui se passe pour les conflits entre individus, on ne peut pas se tourner vers un tribunal qui va dire le droit et dire aux colonisateurs « tu t'en vas, tu laisses le pays à ses habitants autochtones ». Donc, dans ce cas-là, quel adjectif utiliser ?
Eh oui, celui de légitime et paraît juste, en tout cas. Voilà, en termes de justesse, voire peut-être de justice, ensuite.
Oui, il y a quand même des tribus de singes qui se font des guerres, des massacres, jusqu'à ce qu'ils aient tué tout le groupe qu'ils ont décidé d'envahir. C'est pas uniquement les hommes.
Là, j'avoue que sur la logique de l'instinct, voilà, ouais, oui, tout, ravage tout.
En fait, est-ce qu'il n'y a pas une raison fallacieuse dans 100% des cas dans le fait de faire la guerre ? Il y a quelque chose de faux déjà et cette chose de faux, ça vient d'où ? Mais est-ce que ça ne serait pas nos propres mécanismes ? C'est-à-dire que quand on regarde les mécanismes de la personnalité, on se rend compte que la nature et la structure de l'ego, c'est le conflit. Parce qu'on passe notre temps à se mesurer en fait au prochain, donc ça c'est du conflit larvé, on se compare, c'est du conflit larvé, la course à l'ambition, etc. C'est toujours une comparaison ou un jugement, donc est-ce que ça ne serait pas dans la structure et la nature même de notre ego, cette chose ? Et en fait, là, ça pose vraiment la question et l'urgence dans les temps qui viennent, d'ailleurs, de transformer ça. Mais il faut le regarder vraiment en face, en fait, peut-être.
Mm-hmm. Le rapport à l'envie, le rapport à la jalousie, le rapport à... Ouais.
Moi, je voudrais revenir à ce que vous avez dit sur l'homme est un loup pour l'homme. J'ai l'impression que chaque homme a en lui cette agressivité qui est une condition de la survie de l'espèce. Je crois que quelque part, on est programmé comme ça, et qu'avec ça, il y a des cercles concentriques d'intérêts, les tribus, ou les groupes, ou les États, ou les sociétés plus complexes, qui se défendent de la même manière que l'individu lui-même, qui survit par rapport à celui qui va lui manger le pain dont il a besoin. Et c'est un mécanisme de survie.
Mm-hmm. De survie, de protection. Alors la question pourrait être, est-ce que c'est lié à la rareté des ressources ? Est-ce que je dois impérativement me battre pour contre l'autre pour survivre parce qu'il n'y a pas suffisamment de ressources pour tout le monde ? Ça va être une question.
Alors, la cause peut être juste. La guerre ne peut pas être juste. Une cause peut être juste. N'importe quelle cause peut se justifier. Mais par contre, venir au conflit, c'est injustifiable. C'est-à-dire que l'homme n'a pas trouvé, malheureusement, une solution, entre guillemets, humaine, pour résoudre ou pour solutionner la cause qu'il défend. Et en fait, la guerre, c'est vraiment la pire des solutions.
Un pur rapport de force et de domination, en fait.
Oui. Malheureusement, l'homme étant ce qu'il est, actuellement, peut-être que dans des milliers d'années, on aura assez évolué pour comprendre que la guerre ne peut être une solution.
La question que je me pose, c'est que on est à peu près tous d'accord, surtout après coup, de dire bon, la guerre c'est quand même moche. Il y a plein de gens qui meurent, il y a du sang partout. Enfin, on a tout un tas d'exemples dans l'histoire où on voit que c'est nul. Pourquoi on continue ? Pourquoi il y a des gens qui, même si on peut considérer qu'il y a des dirigeants qui envoient des personnes se faire la guerre, admettons, ils veulent le pouvoir, l'ego et tout ça. Pourtant, les gens, ils continuent soit à s'enrôler, soit ils acceptent quand même d'aller sur le front. Enfin, on peut se demander, mais ça semble un peu aberrant de se dire ils y vont quand même, en fait, alors qu'on sait que c'est terrible. Et du coup, je me demandais, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de... pas forcément d'idéalisation, de fantasme, mais quelque chose de... En fait, on n'a pas conscience vraiment avant de partir en guerre où on a une question de je me bats pour telle ressource, je me bats pour telle valeur et tout ça, sans du tout se rendre compte que sur le terrain, ça va être horrible. Comme s'il y avait quelque chose d'une inconscience, en fait, de ce qui va vraiment se passer. Que toutes les raisons qu'on se donne pour y aller sont justes, peut-être, ou légitimes dans le fait que, on va défendre notre nation ou quoi, en oubliant totalement que, dans les faits, quand je suis sur le front, quoi, c'est horrible, et que, après coup, au regard de l'histoire, quand on analyse ce qui s'est passé, c'est horrible. Mais voilà, ce décalage d'appréhension de ce qui va se passer.
Alors, ce qui est intéressant, c'est cette notion de l'horreur. Qu'est-ce que c'est que l'horreur de la guerre ? Et dans cette horreur, on pourrait mettre le terme de destruction. La guerre, c'est par définition ce qui détruit, ce qui rase tout, ce qui ramène tout, j'ai presque envie de dire, à zéro. Et vous avez un texte assez, j'ai envie de dire, heurtant, de Breton qui s'intitule « La part maudite ». Et la part maudite, qu'est-ce que c'est ? C'est, pour Breton, ce que l'humanité recherche constamment à un moment donné de son histoire. Nous construisons, nous bâtissons, nous élaborons, nous mettons en place des civilisations, nous élaborons des valeurs. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut la part maudite. Et la part maudite, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'il nous faut impérativement tout détruire. Voilà. Il nous faut tout détruire pour pouvoir ensuite reconstruire. Et du coup, si on analyse un tant soit peu ça, on se rend compte que la guerre, elle est quand même un moteur extraordinaire sur une logique économique. En d'autres termes, est-ce que l'humanité pourrait vivre sans guerre ? Économiquement parlant, une fois que vous avez tout détruit, vous relancez sérieusement l'industrie, vous relancez la créativité, vous remettez tout en chantier, il y a tout à refaire. Et donc, vous redonnez une dynamique absolument incroyable. La part maudite. Plus vous créez de richesses, plus à un moment donné, ce que vous créez, il va falloir le consommer. Comment vous consommez ? Et voilà, tout ça tourne.
Tout ça, ça fait tourner le monde. Donc cette part maudite, c'est cette part qu'on ne veut pas voir, et qui fait qu'effectivement la guerre, on ne sait pas si elle est juste. Mais en tout cas, la question est-ce que la guerre est inévitable ? Voilà, cette part maudite, cette part d'ombre, cette part qui habite chaque individu et qui peut habiter aussi les sociétés qui sont les nôtres, André Breton l'interroge sérieusement. Voilà. Détruire pour reconstruire. Détruire pour reconstruire.
Moi, ce que je voulais dire, c'est que, justement, l'injustice, c'est souvent la cause de la guerre, en fait. Et du coup, globalement, s'il y a justice, pour moi, il y a paix, quoi. Moi, ce que je remarque, c'est souvent cette injustice, elle est due à des... On va pouvoir trouver mille raisons. On va pouvoir dire que c'est un problème de patrie, un problème de religion ou autre chose, quoi. Mais c'est souvent... Il y a souvent, au fond, un manque de justice matérielle. Une situation, voilà, un manque de ressources, du coup on va attaquer le pays pour prendre les ressources de son territoire, une situation coloniale, quelque chose comme ça, quoi. Il y a toujours une injustice à la base, et souvent matérielle, on va trouver toujours mille raisons, hein, mille raisons pour justifier, enfin, pour détourner cette injustice matérielle, quoi, par des idées. Mais à la fin, voilà, il y a toujours, tant qu'elle perdure, cette injustice, ça va forcément mener à la guerre à un moment ou un autre, quoi. Du coup, pour moi, la paix, c'est la justice, justement. Mais bon, après, voilà. Je sais pas si...
Et est-ce que l'injustice ne relève pas à chaque fois d'une logique d'appropriation?
Oui, voilà.
Et donc, et on revient sur la logique de la domination.
Voilà, c'est, on l'a dit déjà.
Ouais, ouais, ouais.
Moi, ce que je voulais dire, c'est que quand même, quand on dit que les gens, ils allaient à la guerre en pensant pas au fait que c'était effroyable, c'est pour dire que ceux qui désertaient, ils étaient fusillés. Donc ça, c'est quand même très dissuasif. Voilà. Donc voilà, il y a ça. Et d'autre part, je pense aussi que l'éducation, elle peut changer beaucoup de choses. Parce que, par exemple, en France, on est beaucoup sur un système éducatif qui est fondé sur la compétition et pas sur la coopération. Et je trouve que dans le monde, il y a quand même des pays où on voit qu'il y a beaucoup moins de gens belliqueux que dans d'autres. Donc je pense que voilà, c'est pas aussi... Enfin, effectivement, bon, après, on peut se demander quand on a... Comment on peut réagir face à quelqu'un d'un autre pays, enfin, un dirigeant d'un pays qui est très belliqueux, effectivement. Après, c'est comment faire autrement qu'en allant faire la guerre. Mais bon, je pense qu'il faut que... Enfin, moi, j'ai l'impression que les générations jeunes, elles sont quand même pas aussi... Elles se laisseraient pas aussi, entraînées comme ça, comme, effectivement, c'était pour la guerre de 14, par exemple. Mais donc, il faut pas non plus... Enfin, moi, je trouve que c'est pas... L'éducation, ça fait beaucoup, hein, quand on voit tout ce qu'on peut faire avec des enfants petits pour leur inculquer des choses qui sont autres que la compétition.
Il y aurait un éveil des consciences.
Oui.
Oui, on est facilement d'accord pour lutter contre la guerre, mais il y a peut-être quelques aspects... moins négatif. L'Alsace-Lorraine, par exemple, est-ce qu'elle serait française sans la guerre? On a toujours parlé des retombées technologiques pendant la guerre. Il y avait des avancées technologiques très importantes. L'amitié entre l'Allemagne et la France, l'Europe, on connaît, est-ce qu'elle existerait sans la guerre?
La ruse de la raison, dirait Hegel. Il faut qu'on arrive sur ce qui est mauvais pour tenter d'en extraire ce qui peut être bien.
Oui, bonsoir. Moi, je reviens sur la part maudite.
Oui.
Je pensais à la guerre d'Espagne en me disant c'est un peuple, la moitié a combattu l'autre moitié parce que Franco avait décidé de prendre le pouvoir. Et donc, ça a commencé quand même par des destructions. Et donc, un soldat, quelqu'un qui n'est pas soldat au départ, il a envie de défendre son pays, il a envie de défendre sa famille. Voilà. Donc, il se retrouve effectivement dans un système où il va retrouver d'autres personnes qui ont les mêmes idées que lui et aller combattre ceux qui ont... On dit, il y a celui qui attaque et puis celui qui est attaqué. Mais concevoir que ça puisse être le même peuple qui se bat pour des idéaux, parce qu'il ne communique pas comme il... Voilà, ça pourrait être une solution peut-être d'apprendre à mieux communiquer et de voir si vraiment la destruction, comme on disait tout à l'heure, apporte un mieux-être après une relance de l'économie. Moi, je pense qu'on pourrait peut-être se dispenser de tuer tous ces gens pour ça, quoi. Voilà.
Trouver une autre manière de régler les conflits.
Voilà, sans qu'on en arrive à des tortures, à des choses horribles, à des horreurs complètes. Mais cela dit, je pense qu'on ne peut pas ne dire sous prétexte qu'il y a des horreurs, ne rien faire pour son pays parce que pour des gens qui nous attaquent. Voilà.
Oui, pour reprendre tout à l'heure, quand je disais les causes profondes, bon, c'est parce que c'est notre ego qui est bâti comme ça, hein, donc sa structure conflictuelle, et c'est dans sa nature et dans sa structure. Mais il faut aller plus loin que ça. Il faut se dire, so what ? Est-ce que ça ne serait pas simplement la peur qui nous gouverne depuis le départ, une peur instinctive, une peur tout azimut, et qui a créé ce monde, hein, d'ailleurs, mais bâti sur ce sentiment-là, très très enfoui et très très inconscient. Voilà, qui justifie un petit peu toutes ces comparaisons, ces jugements, ne avoir peur de ne pas exister, qu'on ne nous voit pas, qu'on ne nous écoute pas, qu'on ne nous entende pas.
Qu'on ne nous aime pas.
Qu'on ne nous aime pas, et ce sentiment-là, hyper enfoui depuis le départ, qui a donné cette structure d'ego conflictuel, voilà, qui a créé tout notre monde, en fait, mais qui est complètement... est-ce que ça ne serait pas ça, hein ?
Et qui justifierait le fait qu'on est dans des sociétés de compétition. C'est-à-dire, si je suis meilleur que mon voisin, je serai celui qui sera peut-être le plus regardé, le plus admiré, le plus ovationné. Et ça, effectivement, on a ce besoin de reconnaissance qui justifie que je peux rentrer en conflit avec autrui. Oui.
C'est-à-dire que la peur instinctive, dans les moyens de survie, c'est déplacée dans la
société. Il faudrait juste le micro ensuite. Ah, il marche. Voilà, il marche plus le micro. D'accord.
C'est la guerre.
Alors. On va attendre demi. Alors, ce rapport à l'autre est quand même intéressant. Enfin, il me semble. Il y a un très beau test. De Saint Augustin sur le vol de poire. Saint Augustin est jeune, il se balade sur un chemin et puis et il voit des poiriers, voilà, dans un verger. Et les poires sont tellement belles. Elles sont tellement belles de l'autre côté du mur. C'est-à-dire cette poire qui lui est interdite. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il va voler la poire. Il mange la poire et il s'en délecte complètement. Et peu après, la conscience revient et il a bien conscience que c'est du vol et qu'au final, une poire sauvage ou une poire dans le poirier, c'est dans une propriété privée, voilà, c'est malgré tout la même chose. Mais ce qui l'intéresse, c'est de prendre conscience de ce qui s'est passé en lui. Et en fait, voilà, qu'est-ce qui l'a motivé à aller voler ? C'est pas la faim, c'est pas la beauté même de la poire. La poire est devenue belle parce qu'elle était interdite. La poire est devenue belle et elle est devenue désirable parce qu'elle était la propriété de l'autre. Et voilà, c'est ça qu'il analyse. Et tout d'un coup, il prend conscience que la jouissance qu'il a prise à aller voler cette poire, elle vient du fait qu'il a transgressé un interdit et qu'il a pris ce qui appartenait à un autre. Voilà.
Et du coup, ben, la question est-ce que la majorité du temps, en fait, on ne fonctionne pas un peu comme ça? Et c'est ça, les logiques de concurrence, de compétition, c'est-à-dire pouvoir prendre ce que l'autre a pour se l'approprier, parce que ce que l'autre a, moi, je pars du principe que je ne l'ai pas, que je suis un être de manque, et que ce que je vais pouvoir posséder de l'autre, c'est ce qui va m'apporter plénitude, satisfaction, richesse, voilà, création, etc. D'où le fait qu'on va toujours tenter, un, de se comparer aux autres, et deux, de tenter d'aller prendre ce que les autres ont. Et voilà. Et la question est, est-ce que c'est structurel, justement ? Oui, est-ce que le micro fonctionne ? Oui, allons-y.
Tout à l'heure, j'ai été frustrée à cause d'un problème de pile. Alors, il me semble quand même que les logiques de guerre ne sont pas strictement identiques aux logiques de conflit individuel. Je pense à la guerre en Irak, par exemple. On sait aujourd'hui qu'elle a été déclenchée pour permettre à des entreprises américaines d'avoir un marché en Irak, mais les peuples américains ou irakiens était bien loin de ces considérations. Et très souvent, dans les guerres, bah, même les gens les plus pacifiques, ils savent qu'ils vont se faire exécuter s'ils ne partent pas. Donc, je pense qu'on ne peut pas tout transposer. Je voulais aussi évoquer, je pense qu'il y a eu quand même deux tentatives d'essayer d'organiser un tribunal pour éviter les guerres, de mettre en place une réglementation. Parce que quand il y a un conflit entre des individus, il peut être tranché au tribunal, ou quand il y a des gens qui abusent de leur force, ils sont condamnés. Et je pense qu'il y a eu d'abord la Société des Nations, qui était une première tentative qui a échoué. Il y a eu ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, l'ONU, dont l'objectif était quand même aussi d'éviter les guerres entre les pays en les résolvant par la justice. Malheureusement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a des États qui ne considèrent plus que la force et que l'ONU est en échec. Et donc, je ne sais pas s'il y aura une troisième génération d'organisations internationales.
Mais en tout cas, on tente de régler les conflits par le droit.
On tente de régler les conflits par le droit, et je pense que c'est quand même vers ça qu'il faudrait tendre, même si effectivement, on voit bien qu'aujourd'hui, l'ONU, à mon avis, est en échec, comme l'a été la Société des Nations. Il faut remettre le métier sur l'ouvrage et poursuivre la voie du droit.
Oui, ça marche. Justement, je commence à comprendre, à croire qu'il y a ce besoin de chaos pour pouvoir organiser quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on met des choses en place, il y a inévitablement ce besoin d'avoir un chaos pour réorganiser les choses. Justement, je suis parti dans les mêmes idées, c'est-à-dire c'est au niveau des organismes, au niveau de l'éducation, au niveau un moyen d'apprendre comment aux enfants, au peuple, de pouvoir régler le problème du chaos, c'est-à-dire que l'organiser autrement qu'en faisant la guerre. Parce que, évidemment, la guerre, c'est le moyen facile pour tout remettre à plat et recommencer. Ben, on est quand même des, on n'est pas des animaux, on sait réfléchir. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de commencer à penser, à trouver des solutions pour pouvoir organiser les choses autrement que par la guerre? Malheureusement, tous les tentatives comme l'ONU, tout ça, ben, on voit bien que ça a échoué finalement. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen? Ça, malheureusement, moi, je suis bien loin de pouvoir donner des idées à ce niveau-là.
Ouais, alors la guerre, elle est de toute manière au cœur de l'homme. Elle vit dans l'homme, elle naît dans l'homme, elle vient de l'homme. Elle ne vient pas d'éléments extérieurs, elle vient pas de. C'est toujours un être humain, au fond d'un être humain, que naît la guerre, cette horreur. On ne peut pas y couper. Et puis, c'est, de toute manière, l'homme étant ce qu'il est, de toute manière, il y a toujours eu la part obscure, la part claire, il y a toujours eu l'amour, la haine. Et donc, il y a un moment, eh bien, nous faisons la paix, mais bon, ça ne suffit pas, alors faisons la guerre. C'est toujours un peu ce système un petit peu de yin, de yang. Mais de toute manière, il suffit de regarder, c'est au cœur de l'homme que naît la guerre.
Ça peut, mais pas exclusivement. Hein. Voilà. Processus de l'ego peut-être, mais pas exclusivement. Oui.
Oui, on parle de la guerre qui serait au cœur de l'homme. Je pense que et des femmes peut-être, mais je pense que c'est pas pour tout le monde. Je pense que c'est pas universel. Les guerres qu'on connaît, qu'on étudie en histoire, il y a quand même toujours un agresseur qui semble incapable, celui-là, d'avoir les idées qu'auraient les gens qui installent l'ONU ou la Société des Nations. Je pense que ce sont des gens qui sont, peut-être que c'est une partie de l'humain, cette volonté de puissance, mais de pouvoir, d'écraser l'autre, de transformer tout en chaos, pour se sentir fort. Mais je pense que ce sont quand même des exceptions. Et ce qui est triste, c'est que c'est un nombre très limité d'exceptions qui génèrent un chaos entier sur la planète ou sur des continents. Mais à l'origine, l'agresseur, quand on regarde toutes les guerres, Napoléon, Poutine, Hitler, et puis d'autres, c'est la volonté de puissance d'un homme qui a une espèce de mégalomanie qui entraîne les gens par la terreur, en les faisant fusiller s'ils n'y vont pas, en affamant, en faisant enfin, tout ce qu'on peut pour que les gens aillent se battre. Et comme on disait tout à l'heure, je pense que l'homme commun n'a pas du tout envie d'aller se battre. Donc pourquoi cette différence de dimension entre quelques individus déréglés, je dirais, mais qui sont humains quand même, c'est une caractéristique humaine, mais qui est quand même rare, qui provoque un chaos général contre la vie de tous les communs des mortels qui subissent cette guerre.
Et des humains qui mettent en place le fameux droit du plus fort. Voilà. Ouais.
J'ai une croyance, c'est que tout ce qui se passe au niveau micro se passe au niveau macro et inversement. Et je rejoins ce que j'ai entendu. J'ajouterais par rapport à l'ego que l'humain, de toute façon, par essence, a des énergies en lutte en lui. C'est-à-dire que pour moi, l'amour est une énergie et l'ego aussi. Et que ces deux énergies sont en lutte au cœur de l'homme. Et aujourd'hui, l'ego collectif est hyper développé. Donc ce qu'on retrouve dans le cœur de l'homme ou au centre de l'homme, on le retrouve au niveau mondial.
Moi, ce que je voulais pas mal rejoindre ce que disait Marie-France, quoi, c'est que souvent c'était, enfin les guerres, c'est dû à des intérêts économiques des classes possédantes, généralement. Et généralement les morts, c'est les classes en dessous, quoi. Enfin, j'ai plus envie de dire leur guerre, nos morts, quoi. Voilà. Je l'ai pas inventé, hein. Voilà.
Ce sont les dominés qui meurent. Oui. C'est ça, hein. C'est le peuple qui part à la guerre. Bah, ouais. Ce ne sont pas les dominants. Oui.
Bon, il me semble que où on est pessimiste et tout ce qui se dit de l'humain, et notamment de grossièrement défaut, entre guillemets, c'est comme ça et il n'y a pas de perspective de toute façon, il faut le subir. Ou on est optimiste, et on repère effectivement chez l'humain des entraves à une société de coopération, à une société de collaboration, à une société de partage, et on met en place des processus, par exemple, d'éducation, ou en tout cas, on cherche à apprendre à l'humain de dominer ce qui peut gêner la coopération, ce qui peut gêner la collaboration, ce qui peut entraver le partage, pour progresser vers quelque chose de plus harmonieux. Je m'arrête.
Oui. La question est, comment crée-t-on l'harmonie? Vaste sujet.
D'abord, reconnaissons que nous sommes tous... Je veux bien dire, reconnaissons que nous sommes tous différents.
reconnaissons que nous avons à traiter ces différences ensemble et qu'il n'y a pas une différence qui est supérieure à l'autre ou qui me fait supérieur à l'autre. Premier point. Commençons par ça et après, peut-être on pourra en prendre le chemin.
Du coup, je vais dire deux choses, et notamment, je ne partage pas forcément la vision hyper pessimiste de l'homme. J'avais vu un reportage sur l'altruisme que j'avais trouvé assez intéressant. Il y a un centre de recherche aux États-Unis qui étudie les comportements des personnes après des catastrophes naturelles, notamment humanitaires et tout ça. En fait, ils ont observé que contrairement à ce qu'ils pensaient et contrairement aux images que pouvaient montrer les médias, par exemple, après l'ouragan Katrina, notamment, on voyait dans les médias des images de gens qui se mettaient à cambrioler des maisons vides et des choses comme ça, à casser des vitrines et tout. Et en fait, dans les faits, c'était plutôt minoritaire comme comportement et que la plupart des comportements, c'était plus... On était dans des comportements qui étaient plus de l'ordre instinctif, et les gens allaient aider son prochain quand il y avait quelqu'un qui était, le toit d'une maison qui était en train d'inonder, après l'inondation, ils allaient le récupérer. Les gens faisaient la queue quand il y avait des aides humanitaires, en attendant tranquillement d'avoir à manger et de l'eau plutôt que de se ruer tous ensemble et de se battre. Et qu'en fait, on avait une image qui était montrée par les médias qui était tronquée, mais que globalement, en fait, on observait beaucoup de comportements altruistes et que, après, ils analysaient un peu plus en détail dans quel contexte il y avait des comportements qui étaient plus altruistes et d'autres plus compétitifs, et que dans un contexte où on va aider quelqu'un, il va nous aider en retour ou aider quelqu'un d'autre, et qu'il y avait des espèces de boucles de générosité, alors que dans d'autres contextes, on était sur un comportement inverse, et qu'il y avait un effet social où on transmet. Puis même d'un point de vue de la réputation, c'était plus intéressant de montrer au groupe qu'à un moment donné, on aide quelqu'un et qu'un jour, on va être aidé en retour, en termes de survie de groupe, en fait. C'était plus avantageux. Du coup, j'ai encore un peu d'espoir. Hein. et le deuxième point que je voulais dire, c'était... par rapport aux différents types de morale qu'on peut avoir, donc si je me souviens de mes cours de philo, on a trois types de morale, vous me reprendrez.
Je n'hésiterai pas.
Mais morale antique, morale déontologique et morale utilitariste. Oui. Du coup, morale antique, on était dans quelque chose de on va s'améliorer au fur et à mesure du temps, et puis on essaiera de tendre vers l'homme vertueux. Morale déontologique, c'est tu ne tueras point, ou Kant, mais. Et bon, donc quelque chose de faut pas le faire, et puis c'est tout, c'est comme ça. Et aujourd'hui, on est quand même plus dans une morale utilitariste, et du coup, on voit les conséquences, on analyse en fonction des conséquences qui sont positives ou négatives. Et pour le coup, selon la morale utilitariste, faire la guerre, si finalement c'est tout bénef, qu'on a plus de ressources, plus de territoire et tout ça, ça peut sembler être une bonne chose de ce point de vue-là. Et si aujourd'hui j'ai l'impression qu'on est plus dans cette logique-là, ça peut justifier qu'il y ait des gens qui ont envie de faire la guerre. Puis en plus, comme ils envoient d'autres gens qu'eux pour se faire tuer, c'est quand même plutôt pas mal.
Mais logiquement, c'est le plus grand bonheur possible pour le plus grand nombre chez les utilitaristes. Donc je ne sais pas si la morale utilitariste pourrait venir justifier la guerre. Au sens où elle serait profitable. Je pense que Bentham était un législateur, c'était un homme de loi, c'était un homme du droit. Si sacrifice il devait y avoir, c'était quand même pour une minorité, quoi. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est cette recherche du plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Comment l'atteindre? Voilà. Et est-ce que la guerre est un bon moyen pour l'atteindre? S'il y a des causes justes pour faire la guerre, dans un monde qui serait déchaîné, quoi. Ça serait une vraie question. Ouais.
Moi, je pense à,
Il y a eu quelques analyses qui ont été faites là-dessus, mais la réconciliation qu'il y a dans un certain nombre de pays, hein, qui ont souffert, qui sont battus les uns contre les autres, hein, et ceux-là, ils peuvent vivre maintenant. Hein. On a vu les Serbes, les Croates, etc. Et il me semble, hein, même s'il y a toujours des restes, hein, qu'ils arrivent à vivre. Ça veut dire que la conscience humaine, elle serait plus forte que l'attirance à la violence. Ou on peut dire aussi que ces gens-là ont été embarqués dans des affaires qui les dépassaient, hein, qui faisaient la guerre, qui tuaient le voisin, hein, parce qu'on leur avait dit qu'il fallait tuer le voisin, parce qu'il n'avait pas la même religion, etc. Hein, et que... Après coup, quand on réfléchit, à partir du moment où il y a peut-être un vainqueur, encore qu'en Serbie, il n'y a pas eu de vainqueur, moi je ne peux pas me souvenir. Hein. Donc il y a eu réconciliation à un moment donné, à ce moment, donc les hommes peuvent vivre ensemble.
Alors oui, il y a eu réconciliation, mais il y a eu cette volonté de mettre en place la Grande Serbie. C'est intéressant quand même, hein, parce qu'on est dans des logiques d'appartenance. Et de communautés, hein, qui veulent s'imposer. Et ensuite, il y a eu, à la fin de la guerre serbo-croate, il y a eu quand même un jugement qui a été rendu par le tribunal international de La Haye, qui est toujours en cours. Et c'est là où, sur les institutions internationales, ça me semble bon d'y revenir et d'y réfléchir. C'est-à-dire, est-ce qu'elles sont aussi impuissantes qu'on l'a dit ? Est-ce que, malgré tout, il n'y a pas quelque chose de l'ordre d'un droit international qui arrive à s'instaurer, qui arrive aussi à s'installer ? Donc, on pourrait dire quelque chose de l'ordre de la justice, mais du coup, ma question serait, comment elle s'installe, la justice ? Est-ce que c'est simplement par un éveil des consciences ? Est-ce que dans l'humanité, la loi n'est pas effective que si elle est associée quand même à des sanctions qui peuvent être violentes et qui peuvent être puissantes ? Donc c'est vrai qu'il y a un droit du plus fort, mais du coup, si on veut lutter contre le droit du plus fort, est-ce qu'il ne faut pas aussi accepter qu'il y ait une force du droit ? Et est-ce que ce n'est pas la force du droit qui, tout d'un coup, vient bloquer les conflits et les logiques peut-être émergentes qui pourraient générer de nouvelles guerres. Voilà. C'est une question.
Alors moi, je voulais dire, par rapport aux personnes qui ont parlé des énergies, puis est-ce que l'homme est bon ou mauvais, et je crois que, du coup, c'est le challenge des temps qui viennent, hein, justement. C'est-à-dire qu'il y a cette conscience qui émerge de nos réactions primaires, hein, qui viennent du petit moi, mais il y a une autre énergie qui est aussi en nous et qui observe ces agissements-là. Et actuellement, il y a une conscience de l'observation de ces agissements-là qui permettent davantage de faire un choix. C'est moins au premier degré. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de détachement où on a la capacité d'avoir cette autre énergie qui va regarder les agissements de la première. Et donc de choisir, quoi, ce qu'on fait.
Alors, est-ce que c'est de choisir ou est-ce que c'est de lutter ? Je trouve que c'est une vraie question. C'est-à-dire, par rapport à une violence qui se déchaîne, hein, la violence de la guerre, est-ce qu'on peut opposer autre chose à cette violence de la guerre qu'un combat, qu'une autre violence ?
Ouais, c'est très curieux. Moi, je me demande... Ouais, mais alors ça, c'est très difficile d'y répondre parce qu'on n'est pas dans le contexte. Et en fait, on se rend compte que les personnes qui sont dans ce contexte-là n'ont pas forcément cette vision-là. Et donc, du coup, c'est très difficile de discuter de sujets hors des contextes, parce que c'est un ensemble de choses, quoi. C'est-à-dire que nous, si on était en plein conflit, ben, je sais pas si on serait. C'est pas comme ça que ça se passerait pour nous. Donc, c'est très difficile de trancher, en fait.
Non, par rapport à cette question, il me semble que dans déroulement dans le temps, ce qui est, en tout cas, ce qui serait souhaitable, ce serait de résoudre les conflits avant d'arriver à l'état de guerre. Une fois que l'état de guerre existe, on ne peut que le subir. Oui, je dis, une fois que l'état de guerre existe, on ne peut que le subir.
Donc il faut
le problème, c'est comment résoudre les conflits avant l'état de guerre. Et le choix, il est là. Est-ce qu'on cherche avant et est-ce qu'on s'en donne les moyens ou est-ce qu'on laisse venir? Et on subit. L'état de guerre, on le subit.
Moi, je pense qu'on cherche quand même à résoudre les conflits avant les guerres. Après les guerres, on les voit forcément parce que ça explose, c'est majeur et on est mis devant le fait accompli. Et je pense qu'effectivement, tout le droit international, même la Société des Nations, l'ONU, moi, je pense que c'est utile. Enfin, les tribunaux, la haie ou n'importe quoi, je pense que c'est... Il y a toute la diplomatie, toutes ces choses-là. On n'est pas quand même dans un environnement primitif, je dirais, où effectivement on pouvait se battre pour avoir de l'eau, pour manger, etc. Je pense que les enjeux sont peut-être économiques, fabriqués par des mauvaises consciences humaines, volonté de pouvoir ou d'intérêt, ou s'enrichir, ou tout un tas de choses. Mais je pense que au niveau des États, des gouvernants qui adhèrent aux organismes internationaux, aux tribunaux internationaux, je pense qu'il y a une réelle diplomatie, et on n'en sait rien, et tant mieux, de tout ce qui se trame en sous-main. Je pense qu'il n'y a pas que l'histoire des lobbies, des méchants, des profiteurs et tout ça. Je pense qu'il y a aussi cette part d'humain où on n'a pas envie de la guerre, et que la diplomatie, c'est une vraie réalité, les services secrets, c'est une vraie réalité, et ça travaille, je pense, à éviter la guerre. Dans un premier temps, qu'on ne connaît pas. Quand la guerre arrive, on a l'impression qu'on n'a rien fait pour l'empêcher. Mais je pense que ce n'est pas vrai. Je pense que l'humanité, la civilisation, contrairement aux premiers hommes qui peut-être se battaient d'une manière instinctive et pour la survie, maintenant les guerres, ce sont effectivement des intérêts, des croyances, des régimes politiques. On se bat pour la démocratie, contre la démocratie, pour telle religion, contre telle religion. Bon, ce sont des systèmes... intellectuel, je dirais, qui amène aux guerres. Et donc, de la même manière, je pense que la diplomatie, c'est aussi un système intellectuel, c'est des bases d'humanité, d'humanisme qui fonctionnent. Sinon, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de guerres, malheureusement, qu'il n'y en a.
Juste pour rebondir sur ce que vous disiez, madame, je suis d'accord avec vous, bien entendu, on n'a pas envie que la guerre éclate. Mais j'ai l'impression que, quelque part, elle s'impose à nous. Je pensais à l'aspect écologique, sur le fait que, ben voilà, il y avait un manque de ressources, un manque d'eau. Et là, concrètement, comment on va faire pour partager les ressources? Et je me disais aussi, est-ce qu'une guerre, ça permet pas aussi, malheureusement, qu'il y ait des personnes en moins, et donc, du coup, plus de ressources? Et voilà.
La part maudite.
Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que par rapport à ce que disait Catherine, le fait que les institutions internationales, c'est les règles qu'on y a mises qui sont très bloquantes. Parce que si je me souviens bien, il y a beaucoup d'endroits où la règle, c'est d'être l'unanimité. Si un pays est contre, ça ne se fait pas. Et ça, je crois que c'est utopique de se dire que pour que tout le monde doit être de cet avis-là, pour qu'on fasse quelque chose. Donc je pense qu'effectivement, il y a beaucoup à travailler sur les règles à mettre, qui seraient des lois et auquel cas, voilà. Parce que l'utopie, l'unanimité, ça me paraît toujours utopique. Mm-hmm.
Voilà. Donc il faudrait revoir les procédures, en fait. Oui.
On va leur dire.
Oui.
Par rapport à la diplomatie, je pense qu'en fait, la guerre, c'est toujours un constat d'échec. On arrive à la guerre parce que tout le reste a échoué, hélas. Et en ce qui concerne les institutions internationales, je pense qu'effectivement, on essaye de mettre des règles de droit. Et il faut poursuivre dans cette voie, mais il manque un volet sanction. Aujourd'hui, le respect du droit ne repose que sur la bonne volonté de tous les pays signataires. Or, on voit bien aujourd'hui qu'il y a des pays qui ont une puissance militaire qui décident de s'affranchir du droit. Et il n'y a pas de sanction. D'où l'impuissance de l'ONU.
Mais du coup, on en revient toujours au même, hein, c'est-à-dire à la force de l'envahisseur ou de l'attaquant. Est-ce qu'il ne faut pas savoir, oser, accepter, même la mort dans l'âme, d'opposer la force adverse ? Et même si on l'appelle la force du droit, mais ça reste une force. Avec, du coup, si on veut parler concrètement, des moyens militaires au niveau international.
Vous disiez des moyens militaires.
Et oui, au niveau international, du coup.
Alors, moi, il y a plein de choses qui m'échappent, en fait, dans cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. En fait, lorsqu'on voit la Russie, c'est gigantesque, c'est un géant. Quand on voit l'Ukraine, c'est tout petit, c'est un lilliputien. Et donc, en fait, Poutine, effectivement, a déclaré la guerre pour une histoire de conquête de territoire, pour la désunification, disait-il, voilà, pour éviter aussi que l'Ukraine entre dans l'OTAN, etc., etc. Mais aujourd'hui, en fait, moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi tous ces pays donnent des milliards et des milliards. Alors, Zelensky prend son bâton de pèlerin et puis va d'ici et de là. Les États-Unis donnent des milliards à l'Ukraine alors qu'il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas de système de sécurité sociale comme nous, c'est marche ou crève. Et je ne comprends pas en fait cette militarisation à outrance, cette guerre à outrance. Et on arrivera un jour où il y aura un accord, mais en fait, pourquoi on n'établit pas à un moment donné ou à un autre, je veux dire, une autorité, on se met tous autour de la table et puis voilà, cette guerre prend fin. Ce que je veux dire. À quoi ça rime d'aller envoyer des milliards ou d'envoyer de l'armement, je veux dire, pour tuer des Ukrainiens, mais ces mêmes Ukrainiens, ou des Russes aussi, parce que je veux dire, comme je disais tout à l'heure, un Ukrainien n'a aucun intérêt à aller tuer un Russe et vice-versa. Je veux dire, voilà, ce sont des êtres humains comme nous et ils n'ont aucun intérêt à s'entretuer. Donc voilà, ça me rend malade tout ça.
C'est sûr que s'il y a un éveil des consciences. On est dans quelque chose qui reste très primaire, là. Oui, oui. Ouais. Il serait peut-être temps de passer à autre chose. Oui.
Ouais, je voudrais bien dire, par rapport aux institutions, c'est vrai que pour essayer de... Comment ? On a dit qu'il fallait une justice internationale pour essayer de contrôler les gens. On se rend compte que les États-Unis, qui a toujours été pendant longtemps le gendarme du monde... Ouais. Heureusement, peut-être, hein, parce qu'ils ont quand même réussi à maintenir une certaine paix dans certaines régions, parce qu'il y a quand même eu des guerres ailleurs aussi, hein, donc en Afrique, il y a toujours eu des guerres, tout comme ça, mais il y avait un semblant de paix qui était entretenu pendant un moment. Mais celui qui détenait le pouvoir, c'est-à-dire de maintenir la paix dans ce monde, lui-même a commis des dégâts. Par exemple, la guerre en Irak, qui a été faite, évidemment, il n'y a pas eu de justice, puisque personne n'a été jugé pour ça, et ça, c'était des erreurs, parce que on dit, par exemple, une justice pour pouvoir garantir la paix, pour pouvoir remettre tout le monde, remettre de l'ordre. Mais il y a toujours un pays, un grand pays, qui est en tête de cette paix, comme ça a toujours été les États-Unis pendant très longtemps. Et on voit bien qu'il s'est permis aussi de faire quelques exactions sans avoir des conséquences. Voilà. Est-ce que ça aussi, c'est pas une conséquence de la guerre qu'il y a aujourd'hui ? Faire la paix, avoir des institutions, à condition que ça soit bien représenté dans le monde, que tout le monde se sentent concernés. Il y a toujours eu des pays qui se sont rendus délaissés par rapport au droit international, ce qui fait que ces gens-là, comme ces gens qui ont adhéré à la pensée de Poutine, par exemple, qui se sont toujours sentis rejetés, ben, c'est facile pour ces gens-là d'adhérer directement à celui qui cherche à mettre le chaos pour repartir sur autre chose. D'où on parlait d'avoir des institutions qui vont prendre la place d'organiser le chaos autrement. À condition que ceux qui ont le pouvoir acceptent d'en perdre un peu. C'est comme celui qui a plus. Est-ce qu'il est capable à un moment donné de se dire que je dois donner un peu plus à l'autre et avoir moins pour pouvoir organiser les choses, pour organiser ce chaos ? Sinon, ben, si personne ne veut céder, ben, on va y arriver. Hein, ce sera inévitable, de toute façon. Est-ce qu'on est prêt à perdre pour organiser les choses ? Voilà, c'est ça la question.
Oui, oui. Alors c'est intéressant, hein, parce que si on se tourne vers le tribunal international de la haine, il y a une petite année, un très grand nombre de pays africains, en fait, se sont retirés de la juridiction du tribunal international de la haine en disant exactement ça. C'est-à-dire, nous, on est jugés. Et on accepte les sanctions qui nous sont données par le tribunal international au nom d'un droit international. Mais en fait, on est en train de se rendre compte que les grandes puissances internationales, elles sont jamais jugées. Donc il y a un dysfonctionnement total au niveau de cette idée qui, à laquelle on a accepté de se soumettre, à laquelle on a accepté de céder quelque chose de sa souveraineté nationale, mais qui en fait n'est pas, ne se retrouve pas sur l'ensemble des États, de, j'ai envie de dire, du monde. Donc l'international, un droit international, une organisation internationale, c'est un très beau rêve, mais il ne pourra se réaliser que si tout le monde accepte d'y participer et accepte de céder. De céder une part de sa souveraineté, effectivement. Ouais. Donc, est-ce qu'on acceptera le prix, non pas de la guerre, mais de la paix ? Ouais. Ou est-ce qu'on préférera la guerre à la paix ? Pour assurer, encore une fois, sa souveraineté.
Moins
d'optimisme. En tout cas, ce sont des vraies questions hein, qui se posent, auxquelles on est confronté hein, à l'heure d'aujourd'hui. Hein. Ça, c'est. Ouais. Il est question que de pouvoir.
C'est de puissance, c'est de peur.
De puissance, de peur. Ouais.
Justice.
Et de justice.
Mmh. Ouais. Le but, c'est qu'il y ait un bonheur pour tous.
Ouais. Ah, le micro ne marche plus.
Comme on disait tout à l'heure, la philosophie utilitariste. C'est-à-dire le bien, voire le bien de tout le monde, pas le bien de quelques-uns, pour imposer une certaine loi, une certaine loi à tout le monde. Voilà. Accepter, à un moment donné, de gagner moins pour que l'autre ait un peu. Voilà. Et partager, le partage, voilà. On parlait des ressources. Quand il y a moins de ressources, on se bat pour les avoir. Mais quand les gens n'ont plus de ressources, évidemment, ils voudront remettre les choses à plat pour essayer d'en avoir. Est-ce que ceux qui ont des ressources, à un moment donné, ils vont accepter ? Je parlerai, par exemple, quelqu'un qui a un yacht, qui s'est donné des besoins qui sont au-delà des besoins que possède tout le monde, hein, c'est-à-dire avoir un yacht à Marais, à Monaco, tout ça. Est-ce qu'il est capable d'accepter, à un moment donné, de perdre son yacht pour... Il ne perd pas sa vie. Il va juste perdre son yacht pour que l'autre, pour que les autres, eux, un peu, pour pouvoir essayer de égaliser les choses. Est-ce que c'est possible ? Voilà. Le plus on en est là. On en est là. On a un niveau de vie qu'on n'a pas envie de perdre pour que les autres puissent avoir un niveau de vie, même moindre, mais un peu plus élevé qu'ils ne l'ont. Parce que pour certaines personnes, c'est la vie ou la mort. Quand je parle par exemple au Congo, tous ces gamins qui sont dans des mines de coltan, par exemple, qui nous servent à notre téléphone portable, quand on a des téléphones ici, on ne pense pas à ces gamins qui sont en train de mourir, tout ça, pour exploiter le coltan. On ne voit que notre niveau de vie. Est-ce qu'on est prêt, à un moment donné, d'accepter d'avoir un téléphone moins performant pour que ces gamins puissent vivre correctement ? Voilà, pour qu'ils puissent étudier, par exemple. Voilà. C'est ça la question.
Et en même temps, si on veut aller au bout du processus, de l'autre côté, voyant notre niveau de vie, il y a un désir d'avoir notre niveau de vie qui peut engendrer une véritable guerre pour venir nous prendre ce que nous avons. Ouais.
Et il n'y a pas que un problème, c'est pas ici. Il n'y a pas que un problème de ressources ou de pouvoir, il y a aussi le problème que nos idées entre personnes sont trop différentes, ne serait-ce qu'entre deux religions dans certains pays, l'Iran ou qui traite les femmes, bon, bah, je regrette, mais difficile
de parler à des gens qui ont des idées, des idéaux tellement différents, voire même opposés.
Du coup, la communication n'est pas toujours possible, quoi.
Donc, comme nous parlons en philosophie, ici dans la salle, nous sommes tous des bons philosophes. Et on a tous bon cœur, et la guerre, c'est l'horreur. Mais malheureusement, il y a souvent, je l'ai souvent entendu, surtout quand j'étais au service militaire, il y a une philosophie de la guerre. Attention, et c'est pas du tout, c'est pas la même conscience. Parce que la philosophie de la guerre, c'est sublimer la guerre, c'est avoir la médaille, prouver sa bravoure, être héroïque. Donc il ne faut pas aussi renier toute cette, depuis des milliers d'années, toute cette philosophie de la guerre.
La
philosophie de la guerre, dont vous parlez, je pense que c'est entretenu par un corps de métier, l'armée, se défendre. Je pense que c'est pas l'armée dans les États n'est pas faite pour attaquer. Mais je ne sais pas si cette philosophie de la guerre, elle sert à quand il y a des conflits. Enfin, je pense aux pacifistes, par exemple, qui sont quand même très critiqué des mouvements pacifistes, je pense au moment du Front Populaire ou des choses comme ça. C'était très très mal vu, d'ailleurs Léon Blum a été jugé aussi énormément par rapport à ça, en disant que finalement on a renoncé à se défendre et on a mis la patrie en danger et les gens, les citoyens, parce qu'on n'a pas voulu armer, on n'a pas voulu créer d'armement, on n'a pas voulu se préparer à la guerre parce qu'on avait des idées de pacifistes. Alors, je pense que, je l'ai dit au début, je suis absolument contre la guerre, je trouve que c'est une horreur, mais il y a des moments, et on disait tout à l'heure, la limite des instances internationales, c'est les sanctions. Mais qu'est-ce que c'est les sanctions, au bout du compte, si ce n'est encore un rapport de force, si c'est on impose à quelqu'un, alors c'est pas forcément d'aller lui mettre une bombe, mais on impose des privations, on le prive de médicaments, c'est bien un rapport de force, c'est bien une forme de guerre aussi. C'est quelqu'un qui a du pouvoir sur quelqu'un d'autre, alors pour une cause qui peut être juste. Si on en veut à Poutine, à juste titre, est-ce qu'on va quand même mettre le peuple russe en difficulté, en manque de médicaments, en manque de logement, en manque d'eau, en manque de nourriture? Mais à un moment donné, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est le fait de quelques personnes qui déclenchent des guerres, qui touchent tout le monde, mais les sanctions, elles vont encore peser sur les plus faibles. Donc le problème, c'est le problème de l'humain, de son pouvoir, de sa puissance sur quelqu'un d'autre, d'assujettir tout le temps quelqu'un d'autre, d'une manière ou d'une autre, et quelquefois pour être victorieux d'une guerre atroce, on va quand même employer des moyens qui vont être dommageables pour les mêmes personnes, toujours le peuple en fait.
Oui, enfin, pour rebondir, la Seconde Guerre mondiale, elle s'est terminée avec la bombe atomique. Hein. Voilà, hein. Donc, ouais. Alors, je pense qu'il est peut-être temps de conclure. Oui, une dernière intervention.
Juste humoristique. En 1968, j'avais 18 ans et le grand slogan, c'était « Faites l'amour ». Et pas la guerre.
Oui, ouais. Exactement. Peace and love. Oui, oui, oui. Alors, y a-t-il des guerres justes? Voilà, vaste question. Je crois qu'on l'a dit, si la guerre peut pas être juste en elle-même, elle peut peut-être avoir des causes qui, elles, peuvent être jugées justes.
Et ces causes, quelles seraient-elles ? La protection des libertés individuelles, le bonheur du plus grand nombre, la justice sociale, que tous puissent avoir droit à la satisfaction des besoins fondamentaux de l'humain, et j'ai envie de dire, etc. Donc effectivement, il y aurait quelque chose dans l'ordre de l'organisation sociale qui pourrait relever de ce qui s'apparente de la justice. D'où comment faire pour éviter les guerres. Alors, Emmanuel Kant a écrit un projet de paix perpétuelle. Moi, j'aime beaucoup le titre, perpétuel. Soyons optimistes. Hein. Allons sur le projet de paix perpétuelle. Mais dès qu'on ouvre son projet, le problème de Kant, c'est de dire le projet de paix perpétuelle ne peut s'établir qu'entre l'ensemble des États du monde, ou en tout cas, il visait déjà l'Europe, mais son idée, c'est quand même de penser cette organisation à un niveau mondial, et il dit il y a toujours un risque. Et derrière sa pensée, il y a ce leitmotiv constant qui est comment tenter d'éviter un État mondial despotique. Voilà. C'est-à-dire une organisation internationale, c'est bien beau, mais sous quel mode est-ce qu'on doit le mettre en place ? Et il dit on ne peut pas le penser sur un mode qui serait hiérarchique. Alors, on pourrait penser avec un président mondial, vous voyez, voilà, avec une instance dominante suprême mondiale. Et en même temps, ça lui pose un problème. Pourquoi ? Parce qu'il sait pertinemment que les dissensions entre les hommes demandent à ce qu'il y ait quand même une instance suprême qui juge, qui tranche, qui rende la justice, qui règle les conflits et qui, si besoin est, va imposer la force du droit. Donc il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui ait cette puissance dominante. Mais Kant s'y refuse. Et il dit, il ne faut pas une instance hiérarchique, il faut penser une fédération. Il faut penser cette organisation mondiale sur le mode de la fédération d'État. Et la fédération, ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que dans l'esprit de Kant, chaque État doit être capable de se penser comme étant égal à son voisin. Quelle que soit sa puissance réelle, minière, financière, militaire, il faut arriver à penser une société d'ego. Et en même temps, cette société d'ego, chez Kant, ça reste un projet. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, il écrit la chose, mais on sent bien que c'est magnifique sur le papier, mais il y a quelque chose quand même qui coince. Et qu'est-ce qui coince ? Ben, je pense que c'est la nature humaine. L'homme est un loup pour l'homme. Société d'ego. Il y a toujours un loup quand même dans la bergerie. Hein. Si tout le monde, si on est tous égaux, c'est bien. Ah, voilà. Le plus fort va parvenir à un moment donné à s'imposer, non pas aux plus faibles, mais à ceux qui ne se défendent pas, puisqu'après tout, on n'a rien à craindre de l'autre. Et donc, le despotisme, voilà, ou des formes de dictature reviendront sans cesse. Les guerres reviendront sans cesse. Donc ça reste chez Kant un magnifique projet. Et on voit où le bât blesse. Le bât blesse, c'est sur cette nature humaine. Voilà, sur cette violence, sur cette agressivité fondamentale, sur ce qui fait qu'on va toujours aller prendre à l'autre ce qu'il a, on envie toujours l'autre. Et donc, il faut qu'on se défende. Si on veut survivre, il faut savoir se préparer à la guerre. C'est ça, ne pas être naïf. Voilà. Hein. C'est ça, ne pas être naïf. Donc il faut s'armer. Voilà. Et si vous êtes fort, ben vous pouvez croire que la force que vous allez extérioriser pourra éviter la guerre, en fait. Plus je suis fort, plus on va me craindre, plus on va avoir peur. Et donc, moins on voudra venir m'attaquer. Donc, la la force, la puissance, c'est ce qui va venir délimiter cette frontière qui va faire que chacun va rester tranquillement chez soi et que la peur de l'attaque va mettre en place cette paix qui est en fait la paix par peur de la guerre. Voilà. Oui ? Alors peut-être un micro ? Il est rangé ? Il en a enlevé les piles. Alors il va falloir parler haut et fort. Il y a des degrés d'éveil de conscience qui sont différents et donc c'est très difficile de mettre en place cette paix internationale. Ouais. Voilà, donc, alors je m'avance, hein. Mais par l'éducation, le degré de conscience évolue, et donc ça permet de croire en un avenir meilleur, et ou en tout cas d'espérer qu'on va surmonter les difficultés. Alors, oui, et puis j'ai envie de dire peut-être et non. Voilà. Et je reviendrai sur cette fameuse philosophie de la guerre. Est-ce qu'après tout, il n'y a pas une philosophie de la guerre ? Alors, la philosophie de la guerre, qu'est-ce que j'entends dans la philosophie de la guerre ? J'entends l'idée de dépassement. J'entends l'idée aussi de gagner sur soi, de gagner sur ses peurs, de gagner peut-être sur... cette agressivité qui peut nous habiter, voilà, et qui fait que, eh ben, la nature humaine, elle est peut-être pas si donnée que ça, en fait. Qu'est-ce qui nous fait dire que nous sommes des êtres naturellement violents ? Ben, peut-être le système, tout simplement, dans lequel nous évoluons, un système qui est concurrentiel. Un système qui est basé sur la compétition, le système qui est basé sur, nous dit Rousseau, nous dit, mais le problème, il vient d'où ? Il vient en fait de la propriété privée. Et quand on a commencé à parler un peu de paix et de fonctionnement peut-être autre que des logiques de rapport de force, que des logiques d'appropriation, que des logiques d'appartenance, que des logiques de domination, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit partage, on a dit coopération, on a dit entraide, on a dit mutualisation. Quand il y a des catastrophes pas possibles, ou tout d'un coup plus personne ne sait où il habite, c'est intéressant quand même, ou plus personne n'a de chez soi, c'est intéressant quand même, ben là tout d'un coup il y a de l'altruisme. Tout d'un coup il y a quelque chose d'autre qui se manifeste, non pas de la nature de l'homme, mais peut-être de notre condition. Donc, qui sommes-nous, si ce n'est peut-être ce que les systèmes que nous mettons en place par le droit, que nous mettons en place par la réflexion que nous pouvons mener, voilà, qui sommes-nous, si ce n'est ce que nos systèmes font de nous ? Voilà. Donc, du coup, y a-t-il des guerres justes ? Peut-être pas, mais peut-être qu'il y a une idée de justice qui peut venir restructurer les systèmes qui sont les nôtres. Rousseau disait « Tout le problème vient de ce qu'un homme, un jour, a eu cette idée saugrenue de mettre une rambarde autour d'un lopin de terre et de dire « Cette terre-là, elle est à moi. » Et donc, toute personne qui va venir ou qui veut venir la prendre, eh ben, je saurai la défendre. Donc, effectivement... Peut-être que quand on parlait de guerre, on s'aperçoit que soit on va défendre son territoire, c'est ce qu'on va nommer les guerres de décolonisation, les guerres d'indépendance, c'est l'indépendance d'un territoire, c'est l'indépendance d'une nation. Soit on va vouloir aller prendre la terre d'un autre, et donc on va vouloir aller conquérir ce qui n'est pas à nous. Mais dans tous les cas, ce qui est à l'origine de la guerre, ce qui est à l'origine de la violence, c'est l'appropriation et la propriété. S'il n'y a pas de propriété, il n'y a rien à prendre. Et du coup, s'il n'y a rien à prendre, ben, il y a peut-être à parler, il y a peut-être à discuter, il y a peut-être à tenter de s'organiser. Là, peut-être, nos différences, elles peuvent se manifester dans des conceptions différentes qu'on peut avoir d'élaborer les ressources communes. Mais du coup, on peut se mettre autour de la table et discuter pour voir comment élaborer un patrimoine qui, en fait, n'est que commun et auquel tout le monde participe. La terre est à tout homme, tout humain. Voilà. Et donc, l'idée de justice, là, elle relèverait effectivement d'une conception, non pas du droit du plus fort. La justice n'est pas ce que le plus fort m'impose, mais la justice, elle relèverait de cette humanité que nous avons en commun et qui nous fait percevoir très clairement les situations fondamentalement injustes que les différents types de systèmes d'appropriation peuvent mettre en place. Voilà. Donc, lutter contre l'injustice, c'est peut-être aussi accepter un changement radical philosophique. Guerre contre nous, ça serait carrément de changer le système par lequel nous organisons l'ensemble de nos sociétés sur l'ensemble de la planète. Et donc, il va falloir lutter contre la peur de perdre et accepter de céder ce qui, en fait, ne nous appartient pas. Poussière on était, poussière tu retourneras. Hein. Dans la tombe, j'emmène rien de ce que je possède, entre guillemets. Donc voilà. Merci beaucoup. Et je vous rappelle qu'un pot de l'amitié, de la convivialité, du partage vous est offert. Gracieusement, Philomène.
Oui.